J'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, Facebook, tout comme les autres, c'est des cigarettiers du 21e siècle. La question, c'est comment on peut essayer, de non pas de les arrêter, mais de réduire leur influence.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Salut à tous et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, on vous fait du décryptage, de la prospective et de la mauvaise foi. Ça, c'est important. Et on est trois pour vous produire ça. C'est Fabrice Epelboin qui est chez lui, quelque part, en France ou dans le monde. Allez savoir. Salut Fabrice.
Salut.
C'est Damien Douani qui est ailleurs, mais pas très loin.
Mais salut, pas Damien. Très loin non plus. Tout à fait. Bonjour.
Bonjour. Parce que depuis des mois, on a pris l'habitude finalement de ne plus se voir, ce qui nous manque, hein, mais en même temps, ça fonctionne aussi comme ça. Et c'est aussi donc Bertrand Lenôtre qui est plus proche des montagnes, lui, au moment où on enregistre ce podcast. Et c'est moi, je parle de moi à la troisième personne, c'est pour vous dire que ça ne va pas mieux depuis la semaine dernière. On va passer devant nos écrans de fumée pour cette semaine, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrypter en fait le fameux documentaire sorti sur Netflix le 9 septembre, The Social Dilemma, en français, derrière nos écrans de fumée, un documentaire de Jeff Orlowski qui est en train de vraiment faire parler de lui. Et c'est finalement la Silicon Valley qui fait son mea culpa, d'une certaine façon, sur ces outils absolument délirants qu'ils ont mis en place. Et la bête est en train d'échapper à ses créateurs, si on doit résumer un tout petit peu comme ça. Vous êtes tous les deux avec des avis un peu différents, hein, sur ce documentaire. Damien, d'abord.
Moi, j'ai adoré ce documentaire. Pourtant, connaissant bien le sujet, je l'ai trouvé intéressant parce que deux choses. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, ça raconte l'addiction que l'on a aux réseaux sociaux, mais par les gens qui ont conçu cette addiction. En clair, c'est comme si vous aviez une sorte de réunion d'anciens dealers qui faisaient acte de contrition et qui disaient « En fait, on a créé un truc, on ne pensait pas que ça allait devenir ça et franchement, on est bien embêtés maintenant. » Alors après, certains sont peut-être sincères, d'autres moins sincères en se disant que le fait de faire de la contrition, c'est aussi une opportunité de faire du business. J'en sais rien. Ce que je note simplement, c'est que je pense que certains sont assez sincères. Alors c'est très à l'américaine aussi, le côté « je m'excuse, je suis désolé », la contrition, tout ça, c'est vraiment très à l'américaine. Mais cependant, il y a des choses intéressantes qui se disent parce qu'ils ont un point de vue privilégié puisqu'ils ont été dans les personnes qui ont mis en place et le like et le scroll infini et le tirer pour mettre à jour, etc., etc. Bref, toutes ces mécaniques qui aujourd'hui nous attachent à nos écrans. Et parallèlement à ça, alors après, je sais que Fabrice n'est pas trop fan de ça, il y a une mise en scène, on va dire, qui mélange les images donc de réalité avec une mise en scène fictive de documentaire, fictive de fiction.
C'est un docudrama, ça s'appelle comme
c'est
ça.
C'est un docudrama, docufiction, qui en fait essaye de mettre un peu en lumière ce que ça veut dire dans la vraie vie.
Fabrice, toi, t'as pas aimé ça, justement?
Il y a l'addiction qui est traitée et il y a aussi la manipulation. C'est les deux grandes dimensions de Facebook qui sont traitées par ce docu, drama, fiction, je ne sais pas trop quoi. Moi j'ai bloqué sur la forme, vraiment. Dès le départ, j'ai bloqué sur la forme. La petite musique dramatique, façon reportage BFM. J'ai un vrai problème dans ce mélange.
Il
ne
faut pas mettre de la musique classique non plus. Enfin, je veux dire, il faut vraiment en 2020. Quoi,
bien sûr, mais j'ai vraiment eu la sensation que pour me parler du système de manipulation de la pensée le plus sophistiqué du monde aujourd'hui, qui est Facebook, on va utiliser les bonnes vieilles ficelles du média audiovisuel et de la façon dont la télé nous a manipulés depuis déjà quelques générations. Ça, j'ai bloqué sur la forme. Après, je dois bien reconnaître que le contenu est absolument exact. La façon de faire qui est en grande partie passée par des repentis, un peu comme dans la mafia sicilienne, pourquoi pas, ça aurait peut-être manqué d'un rééquilibrage par un peu plus d'universitaires, mais pourquoi pas. Mais la forme...
Il y en avait quelques-uns quand même.
C'est vraiment la forme. C'est cette forme qui est très caractéristique de la manipulation par l'audiovisuel et l'information. Là-dessus, moi je bloque. Je suis visiblement le seul parce que j'ai été faire un tour notamment sur Facebook et quand je vois qu'il y a des gens comme Dominique Boulier qui sont enthousiastes, je me dis que bon, c'est peut-être moi le vieux con finalement, mais vraiment ce mélange entre l'entertainment et l'information, j'ai du mal.
Alors après, je peux comprendre Fabrice, c'est vrai qu'on peut avoir ce recul-là, je suis assez d'accord avec toi, ça peut être le ressenti, je comprends tout à fait. Moi, j'ai décidé de jouer le jeu, on va dire, quand je dis le jeu, j'ai décidé finalement de me dire, bon, c'est les codes Netflix, c'est la manière de faire, mais j'ai trouvé que ça se laissait regarder. Et notamment, je me suis dit, c'est qui la cible, finalement ? C'est pas nous. C'est peut-être pas même les gens qui nous écoutent. Non. C'est le gamin. C'est le collégien, c'est le lycéen, c'est l'étudiant. Et ses parents.
Et ses parents.
Et honnêtement, les parents, tout ce petit monde. Je pense que la manière dont ils l'ont mis en scène, eh ben, ça leur parle, je pense.
La séquence où il y a l'amour perdu de l'adolescent qui revient dans son flux d'informations et l'adolescent qui se perd dans des abîmes émotionnels, c'est très bien fait, très très bien fait. C'est clair que même à 50 ans passés, on peut s'identifier à ça.
Voilà, tout comme le côté, genre, je te fais le pari que tu vas pas utiliser ton téléphone pendant une semaine et le gamin qui, au bout de moment, je suis désolé, je spoil un peu, rien de grave, le gamin finalement décide de perdre son pari et on dirait un junkie. C'est, en fait, le mec prend son téléphone et va passer sa nuit dessus parce qu'il a besoin de sa dose. Je trouve que c'est bien vu, parce que quelque part, je pense qu'on l'a tous fait un jour.
Oui, puis il y a cette gamine là qui finalement reçoit des tonnes d'éloges sur une photo et une critique sur ses oreilles d'un espèce de troll et qui finalement pète les boulons, ne veut plus montrer son visage. Et ça, c'est très réaliste aussi. Je pense que la majorité des gamines, à un moment précis, ont eu un commentaire négatif complètement décalé qui les a détruits vraiment pendant des semaines, quoi. Donc ça, c'est quelque chose.
Ben, en fait, moi, pour parler de cette scène-là en particulier, elle m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit d'abord que quand on était gamin, je sais pas vous, mais quand on était gamin, d'abord, en général, la cour de récré, et les enfants sont très, très cruels entre eux. Et la cour de récré, c'est quand même le cirque romain, hein, pour beaucoup. Moi, j'avais un physique moins avantageux qu'aujourd'hui. Et très clairement, l'adolescence est toujours très cruelle. Et le fait est que, déjà de base, on est sensible à ça. Et ce qui m'a fait me rendre compte d'un seul coup d'un truc tout con, mais vraiment, c'est rigolo parce que je m'en étais pas vraiment rendu compte. Enfin, je m'en étais rendu compte, mais on va dire que ça m'a frappé. C'est le fait de me dire, mais finalement, les réseaux sociaux ou autres, ou là, cette gamine qui voilà. C'est exactement ce qu'elle pourrait entendre à la cour. La seule différence, c'est que là, c'est puissance 10 000. Ça vient de gens qu'elle ne connaît pas. Et donc, finalement, on retrouve les mêmes ressort que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours. La seule différence, c'est que là, on s'expose beaucoup et on est capable d'encaisser, on va se prendre dans la figure 100 000 fois plus de messages qui peuvent être blessants ou touchants. Donc c'est clair qu'on se rend compte finalement de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux ou cette mécanique sociale.
Oui, ça, c'est vrai que c'est l'un des trucs qui est quand même, il faut reconnaître, bien foutu dans ce documentaire. Moi, ça fait près de 10 ans que j'ai un cours que je donne aussi bien à des adultes qu'à des pas adolescents, mais des très jeunes adultes, qu'à des gens qui sont parents de jeunes adultes, pour leur expliquer la différence qu'il y a entre un adolescent qui a passé son adolescence avec les réseaux sociaux, qui a créé sa personnalité avec des réseaux sociaux, de notre génération à nous, qui n'avions absolument pas tout ça à disposition quand on a vraiment commencé à construire notre personnalité. Et là-dessus, toutes les séquences sur les adolescents, quand on regarde ça avec le regard de quelqu'un de 50 ans, on est obligé de comprendre ce décalage-là. Et c'est très efficace, et c'est un décalage qui est très important à faire comprendre.
Ah bah finalement, t'as bien aimé.
Aussi bien aux enfants. Non, c'est un objectif pédagogique où effectivement, il le remplit mieux que moi, donc j'ai un peu les boules. Mais c'est très important de faire comprendre aux adultes la différence.
Oui, il a été déçu en bien, tu sais, on dit parfois déçu en bien, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est ça.
Voilà, toi, déçu en bien. Ça, c'est bien, ça me va bien.
C'est pas mal, ça se ressemble bien, ça, Fabrice, c'est tout à fait ça, oui, tout à fait.
Dans les gens qui parlent, il y a l'ancien éthicien du design de Google, entre autres. Il y a le cofondateur du Center for Human Technology. Il y a le co-créateur du bouton like de Facebook. Il y a un prof d'université d'Harvard. Il y a l'ancien président de Pinterest. Et puis, il y a la star pionnier de la réalité virtuelle, Jaron Lanier. Ça, c'est des gens qui parlent. Et un mot de ce qu'a dit le New York Times de ça. Il a dit qu'on y voyait des déserteurs consciencieux de sociétés telles que Facebook, Twitter et Instagram qui expliquent que la perniciosité, j'ai appris un mot, la perniciosité, donc pernicieux, des plateformes forme de réseaux sociaux est une fonctionnalité, pas un bug. Et c'est ça la vraie leçon de ce documentaire. En fait, c'est by design. C'est-à-dire que le côté absolument odieux de tout ça, il n'est pas une conséquence, il est by design. Vraiment, c'est ce qu'ils expliquent.
C'est ce qui s'appelle la captologie. C'est un domaine qui est absolument fascinant et indispensable pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais c'est vrai que c'est important d'attirer l'attention là-dessus.
Le fait est que, alors, moi, dans toutes les plateformes, je distingue certaines plateformes qui ont essayé de résister un peu à la pression. Ceux qui ont industrialisé ça, c'est Facebook. LinkedIn a suivi derrière. Twitter a mis beaucoup de temps à vouloir mettre un algorithme. Le fondateur de Twitter était très réticent, Jack Dorsey, à mettre un algorithme. Mais malheureusement, il y a un moment, quand tu veux faire du fric, il faut arriver à trouver des moyens d'eux. Donc, ils ont mis un algorithme, mais tu peux le débrayer sans aucun problème. Enfin, autrement dit, il y a un bouton qui permet de basculer du mode timeline, temps réel, à un mode on vous sélectionne les tweets pour vous. Donc, on va dire que il y a certaines plateformes dont tu sens qu'elles ont essayé un tout petit peu, et je pense vraiment que Twitter a essayé de le faire, de résister un tout petit peu ou de trouver un moyen de ne pas trop se dévoyer. Le grand méchant de l'histoire, c'est Facebook, très clairement, qui, lui, s'est complètement vautré là-dedans en se disant, bah tiens, c'est un super moyen d'attraper du monde et ils vont en avoir envie. Comme dit d'ailleurs le Mark Zuckerberg du film The Social Network, quand on lui pose la question, mais pourquoi est-ce que les gens mettent leurs trucs dessus, bah j'en sais rien, mais ils les mettent tout seuls, quoi. Ils mettent leurs infos tout seuls. Qu'est-ce que tu veux que je passe? Ils sont cons, quoi. Bah voilà, il y a un peu ce truc-là. Mais bon, ça a très bien marché, hein. Donc bon, voilà, d'un autre côté, c'est nous les cons. Donc très clairement, on voit, oui, des déserteurs, c'est vrai. La question, c'est après, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que beaucoup ont essayé de corriger ça en montant. Tristan Harris a monté le Center for Human Technology. Il y en a d'autres, l'ancien CEO de Pinterest, qui a monté une boîte qui s'appelle Moment, qui essaie justement de travailler sur l'addiction numérique. Il y a des choses intéressantes qui s'en retirent. Après, là où j'étais un peu déçu, par contre, sur le documentaire, c'est les solutions, quelque part, qui sont apportées. On est un peu dans le yaka faucon, on est dans... En fait, en gros, le constat est implacable. Ce qui est surprenant et voire terrifiant, c'est qu'au final, les solutions, il n'y en a pas vraiment.
Si, il y en a une, c'est d'arrêter ce délire. C'était à un moment précis, la solution, dans l'absolu, si on pousse le bouchon un peu loin, ce serait fuite en avant, on déserte tous Facebook parce qu'on a compris ce vers quoi ça nous menait.
Oui, mais on n'y viendra pas. Parce que...
Oui, on arrête tous la drogue et l'alcool et le sexe et tout un tas de trucs. Ouais.
Voilà.
Je pense que la drogue et l'alcool, on peut les remplacer par d'autres drogues et d'autres alcools. Et je pense, et j'ai toujours pensé, et je continue de le dire, que Facebook n'existera pas dans 10 ans. Parce que Facebook finira par dégager de la circulation, sera remplacé par quelque chose de pire encore peut-être, mais ne sera plus là.
Il y a un point qui, un truc qui m'a sauté à l'esprit quand j'ai vu le documentaire. En fait, les plateformes sociales telles qu'on les a aujourd'hui, pas celles d'il y a 15 ans qui démarraient, hein, aujourd'hui, elles me font penser aux cigarettiers des années 50. C'est Philip Morris, c'est Marlboro. Vous savez, le cow-boy Marlboro qui, dans les années 50-60, vous disait « Hey, fumer, c'est cool !» Et d'ailleurs, le mec, il est mort d'un cancer.
Et le médecin qui te prescrivait des cannelles.
Exactement. Mais ça, on le voit d'ailleurs dans la très bonne série que je vous conseille, Mad Men. Voilà. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est qu'on est exactement face au même principe de cigarettier. La question, c'est comment les cigarettiers ont été, on va pas dire arrêtés, mais comment est-ce que leur influence a été réduite? Eh bien, en augmentant le prix du paquet, en leur faisant des procès, et ainsi de suite. Et j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, Facebook, tout comme les autres, c'est des cigarettiers du 21e siècle. La question, c'est comment on peut essayer de non pas de les arrêter, mais de réduire leur influence. Je pense que l'enjeu, il est là. Ça passe, à mon avis, par un patchwork de plein de choses. Ça passe par l'éducation. Ça passe par le fait de faire se rendre compte aux gens de ce que c'est que la réalité des choses. C'est d'essayer d'un point de vue, on en a parlé récemment, la semaine dernière, dans le podcast, c'est des attaques étatiques. L'Europe qui essaye de faire en sorte que, ben, justement, en tapant au niveau du porte-monnaie, comme d'ailleurs ça a été le cas d'ailleurs à l'époque avec la mafia aux États-Unis, de taper au niveau du porte-monnaie pour faire en sorte que ces plateformes soient un tout petit peu affaiblies. Bref, ça passe par, à mon avis, un chaînage de plein de choses qui feront que peut-être on va arriver à un tout petit peu à revenir à, non pas à disparaître de nos usages, parce que je pense que Facebook, comme tous les autres, c'est quelque part les nouveaux téléphones, c'est les nouveaux WhatsApp, c'est le nouveau téléphone, c'est les nouveaux pages jaunes, c'est les nouveaux endroits où on discute, surtout avec le Covid qui fait qu'on peut se voir de moins en moins. Mais à la fois, ça peut-être permettre de remettre les choses à leur place.
Oui, mais j'ai envie de demander à Fabrice si finalement Facebook, parce qu'on parle toujours de Facebook un petit peu parce que c'est le grand méchant, n'est pas dans une position extrêmement compliquée aujourd'hui par plein de niveaux, on en a déjà parlé, mais surtout avec les élections américaines, parce que si jamais Trump commence à partir dans son délire de « je ne quitte pas de pouvoir », Facebook, ayant soutenu Trump, va être obligé de se positionner dans un délire total qui pourrait lui coûter très 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 cher, là, vraiment cette fois-ci, surtout s'il y a une guerre civile qui se déclenche.
Ah bah on est clairement face à ça, c'est-à-dire que soit Trump perd les élections de façon flagrante, et dans ce cas, il est vraisemblable qu'il cède le pouvoir, mais ceci dit, il y aura, selon pas mal d'experts très sérieux, de toute façon un problème de, pas forcément guerre civile, mais enfin de très gros troubles et chaos social aux États-Unis, soit on se retrouve dans une situation où c'est soit serré, soit ils gagnent de très peu de choses lors des élections, mais le vote par courrier très clairement sera favorable à Biden, et donc là, il conteste la légitimité des élections, et là, on est dans un scénario de guerre civile, très clairement. C'est très clairement un scénario qui sera powered by Facebook et tout un tas d'autres choses, et là, Facebook aura un rôle décisif dans l'histoire des États-Unis. À partir de là, l'Europe, qui verra ça, et qui, pardonnez-moi l'expression, se chiera dessus de peur que tout ça s'importe, comme se sont apportés tout un tas de mouvements sociaux, comme Black Lives Matter ou MeToo, l'Europe va être obligé de prendre des décisions drastiques. Après, couper Facebook, ce qui serait objectivement la décision, peut-être pas la plus sage, mais enfin la plus sécure, de façon à sécuriser le territoire européen, ça aurait aussi des conséquences sociales cataclysmiques, à commencer par le fait que, quand on coupe ce genre de choses, traditionnellement, parce qu'il y a plein de pays qui ont coupé Facebook avant qu'on puisse envisager que ça soit possible en Europe, couper Facebook, ça transfère des usages militants sur les messageries instantanées chiffrées. Et les messageries instantanées chiffrées, c'est pas du tout la même architecture sociale qu'un Facebook, ça donne lieu à des contestations sociales beaucoup plus violentes. Beaucoup, beaucoup plus violentes. Donc on est face à une situation qui est très, très complexe dans le cas d'un déclenchement d'une guerre civile aux États-Unis, non pas sur le territoire américain, mais chez nous, en France. Sur le territoire américain, c'est clair que Facebook, de toute façon, est déjà un acteur historique de l'histoire des États-Unis et est bien parti pour être quelque chose de totalement décisif dans très peu de temps.
Et puis, il y a un autre élément, il faut le reconnaître hein, pour les dents. Ce que tu dis, Fabrice, c'est que ce sont des outils qui sont intégrés dans notre quotidien. Ce sont des outils qu'on utilise véritablement. Je veux dire, des outils qui permettent de garder le lien, des outils qui permettent, qui ont une vraie utilité.
Pendant le confinement, on l'a vu, c'était flagrant.
Complètement. Donc, au-delà de l'aspect militant, de base, ce sont des outils qui servent. Et donc, par conséquent, qui répondent à un besoin réel.
Et qui supportent une économie dont on n'a pas, enfin, dont les politiques qui nous dirigent n'ont pas aidé. Le nombre de petites PME qui font leur beurre parce qu'elles font des petits trucs sur Facebook, parce qu'elles entretiennent leur relation clientèle sur Facebook, c'est sans fin. Si ça disparaît du jour au lendemain, il y a un très gros problème économique à venir sur le tissu des PME européennes.
Donc, on est coincé, on est bien d'accord. On ne peut rien faire contre Facebook et en même temps, on sait très bien que les réseaux sociaux, Facebook et les autres, nous amènent directement vers une dislocation absolue de nos sociétés et vers des guerres civiles en rafale. C'est à peu près ce qui se dit dans ce film, mais on n'a pas le choix, c'est ce que vous nous expliquez là.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Je reconnais l'optimisme légendaire de Fabrice.
ce podcast, vous êtes sponsorisé par l'optimisme. Non, mais très, très, très clairement, c'est le titre original, The Social Dilemma. On est face à un dilemme. On est face à un dilemme qui est que ça nous sert, ça sert à quelque chose, mais le problème, c'est que ça risque de nous détruire. Et on n'est pas du tout face à des innovations comme, par exemple, la bagnole. Je m'explique. La bagnole, vous allez me dire, ça pourrait nous détruire. Oui, certes, mais on va dire que la bagnole n'est pas guidée, pour l'instant, au moins, par des logiques d'intelligence artificielle et d'algorithmie. En gros, si tu n'as pas envie de prendre ta bagnole, tu ne la prends pas. Et tu te le tapes le chemin à pied. Donc, par conséquent, ou en vélo, ou autre chose. Il y a des alternatives. Et effectivement, parce que tu vas dire, ça pollue. D'accord. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Moi, je n'en vois pas. Il y a des alternatives en termes de réseaux sociaux, on va dire, qui sont sortis, comme par exemple, il y a le fondateur de Wikipédia qui a essayé d'en faire un, je suis dessus, qui s'appelle WT Social. Ouais, ok, bon, pourquoi pas, mais...
Non, c'est pas bien, c'est pas bien.
On n'est pas dessus, la majorité des gens n'y sont pas, donc ça ne remplit pas cette dimension sociale que l'on attend de ce type de plateforme. Donc, on est face à un vrai dilemme, j'ai pas du tout la réponse, et je pense que vous non plus, et personne n'a la réponse aujourd'hui, on est face à un problème. Et donc, la question, c'est comment remettre un peu de virtuosité dans tout ça. J'ai pas la réponse. Voilà, très clairement, je répète, ça me fait vraiment penser aux cigarettiers. La question, c'est qu'on t'a mis dans les mains un paquet, tu t'es mis à fumer, tu peux plus t'arrêter, parce que, voilà, tu peux plus t'arrêter. La question, c'est, à un moment, soit tu décides de t'arrêter, tout court, soit tu décides de réduire ta conso, soit de passer à autre chose, de passer à la fumette électronique ou autre. Voilà, la question, c'est que ça va être là, et pour un moment.
Damien, Fabrice, on termine par une question. Moi, j'ai publié sur Facebook un appel à Jean-Michel Blanquer, qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas lu de toute façon, en lui disant qu'il faut absolument que ça soit diffusé dans tous les collèges, tous les lycées, avec un débat avec les profs à l'issue de ça. Ce qui est peut-être une des seules solutions pour essayer de bouger les consciences. Et puis, il faudrait le diffuser aussi auprès des parents qui comprennent un peu ce qui se passe, qui sont eux-mêmes accros d'ailleurs à ces réseaux sociaux. On en sait quelque chose, on l'est nous-mêmes. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut essayer de prendre ça et de le diffuser le plus largement possible hors du cadre de Netflix? Oui ou non? C'est simplement cette réponse-là.
Moi, je dis oui, et je dis même que les éclaireurs vont le faire. Voilà, bon, j'annonce.
Bah, on est d'accord, alors. Fabrice ?
Oui, moi, je dis oui aussi, et je dirais même que c'est une opportunité d'échange intergénérationnel.
Est-ce qu'il faut le diffuser, donc, dans des écoles, auprès d'adultes ? La réponse est oui. Est-ce que nous allons le faire ? La réponse est a priori oui. Est-ce que vous avez envie de nous aider à le faire, vous qui nous écoutez ? Bah, écoutez, venez vers nous et communiquez avec nous via tous les réseaux sociaux pour nous dire « Moi, je peux proposer ça dans la boucle pour lancer un petit peu cette discussion générale-là. Pourquoi pas ? On peut imaginer de le faire. »
Et puis déjà, allez le regarder. Moi, je fais pas de la pub. J'ai pas envie de faire spécialement de la pub pour Netflix. Je veux dire, c'est au sens où ça pourrait être n'importe qui d'autre. C'est bien ce qu'ils ont fait. En fait, c'est pas eux qui l'ont fait. Ils ont acheté en fait un documentaire qu'ils avaient trouvé, je crois, à Sundance de mémoire. Mais c'est très bien de le diffuser au niveau mondial. Donc, allez le regarder.
Bon, voilà, c'est peut-être une chance d'ouvrir ce débat-là et que ce documentaire serve de base à cette histoire-là. Puis n'oubliez pas de vous abonner également aux Éclaireurs du numérique. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci Fabrice. Merci Damien. Salut.
Ciao.